Nous allons maintenant pouvoir encore étudier, sans trop prendre de temps, sans trop dépasser, étudier le chapitre 19, si bien que pour demain, dernier jour, nous aurons les chapitres 20, 21 et 22. Trois chapitres pour la journée, ça ira très bien. Alors, le chapitre 19, je vais vous lire d'abord les 10 premiers versets. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !» Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. En premier lieu, le ciel éclate en louanges par suite du jugement de la grande prostituée. Et les voix célestes prononcent un quadruple « Alléluia », c'est-à-dire « Louez l'Éternel ». Ce terme « Alléluia » provient des psaumes et ne figure pas dans le Nouveau Testament à l'exception de l'Apocalypse. La présence et l'activité de la grande prostituée maintenaient sur la terre une épouvantable insulte à Dieu, ce que nous avons souligné tout à l'heure. Une épouvantable insulte à Dieu, au Christ et à l'Évangile. Le système prétendu chrétien qui gangrénait la société humaine en union avec le dernier faux Christ, l'homme du péché, l'Antichrist, vient d'être jugé et aboli. C'est un moment glorieux dont l'éternité se souviendra. Verset 3. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles. L'éternité, donc, se souviendra de cela au siècle des siècles. Il n'y aura pas beaucoup de faits qui seront maintenus dans la mémoire des hommes pour l'éternité, mais celui-là, oui. Remarquons le grand intérêt du ciel pour le monde de la terre. Le jugement a abattu la grande force corruptrice. Et il provoque l'adoration d'une foule d'anges. Les anges sont infiniment heureux, comme s'ils étaient directement intéressés. L'adoration aussi des anciens et des chérubins devant le trône de Dieu. Et une leçon s'en dégage pour nous. Cette leçon, c'est que nous soyons vigilants pour nous tenir séparés de tout ce qui corrompt la vérité et introduit le ferment idolâtrique dans la pensée, dans notre cœur et dans la marche chrétienne. Purifions-nous de tout orgueil de la vie, de toute compromission, quelle qu'elle soit, de toute faiblesse même. Jugeons, condamnons et rejetons ce qui revêt le caractère babylonien. Ayons à l'esprit ce qu'est ce caractère babylonien et rejetons-le, car ce caractère, il est là déjà. Que rien ne ravisse à Dieu la place que lui seul doit occuper dans notre cœur. Le quatrième et puissant Alléluia retentit à l'entrée du Dieu Tout-Puissant dans son règne. Et lorsque se présentent les noces de l'agneau, après la disparition de la grande prostituée, on voit l'épouse apparaître vêtue d'un fin lin. N'est plus du tout le même revêtement, n'est-ce pas, que celui de la prostituée avec son manteau d'or, de pourpre, chargé de pierres précieuses. C'est un manteau de fin lin, éclatant et pur. Ce manteau de fin lin est de l'épouse, la véritable épouse, est un vêtement dépouillé, simplement la blancheur, le fin lin. Depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix et pendant les âges de l'Église, est née l'épouse. L'épouse, elle ne date pas de maintenant, elle date du commencement de l'Église. Est née l'épouse. La nombreuse communauté des bienheureux conviés au festin du royaume dont le Seigneur a parlé, disant « Je ne la mangerai plus jusqu'à ce que je la mange avec vous dans le royaume des cieux. C'est là qu'il boira du vin nouveau avec tous ses rachetés. » L'épouse s'est donc, nous est-il dit, préparée, elle s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Et voici les noces de l'agneau. Il ne nous est pas, certes, révélé beaucoup de choses sur les noces de l'agneau, mais par le moyen du reste de la Bible, notamment du psaume 45, on peut se représenter un peu ce que seront ces noces de l'agneau. Il faut y penser, ce sera un moment extraordinaire. Le Seigneur Dieu sera entré dans son règne, c'est lui qui va présider cette grande cérémonie, si je puis dire. Vous savez que dans une parabole, Jésus avait dit « Un roi fit des noces pour son fils ». Et on peut très bien penser que le thème de cette parabole était déjà emprunté à ce futur que connaissait bien le Seigneur Jésus. Un roi fit des noces pour son fils, et le roi, il était là. Il était là, il examinait les invités, ceux qui étaient présents. Ce temps des noces sera magnifique, il y aura un festin. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Le festin, Jésus, Ésaïe en a parlé aussi, mais le Seigneur Jésus en a parlé dans Matthieu 8. Abraham, Isaac et Jacob seront là, et beaucoup de gens viendront, seront venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, à table avec le festin des noces de l'agneau. Quel festin magnifique, chers amis. On ne peut pas se représenter, évidemment, dans le ciel, dans la cité de Dieu, dans la gloire, n'est-ce pas? Mais nous gardons la révélation du festin, n'avons pas à changer, nous. Regardons cela, n'est-ce pas? Un festin. Un jour, Billy Graham, avait, qui publie toujours, je pense, une revue qui s'appelle Décision. Et sur la première page, sur la couverture de cette revue, on avait représenté une table. Une table, alors, magnifiquement servie, c'est-à-dire qu'il y avait là une vaisselle, ils avaient trouvé vraiment une vaisselle de porcelaine extraordinaire, magnifique, une verrerie, etc. Enfin, il avait une table, si vous voulez, une table royale, mais plus que royale, même une table magnifique. Et alors, avec un jeu de glace, on avait la photographie, se présentait de telle façon que la table n'avait pas de fin. Elle allait vers l'infini. Alors, il y avait un nombre de couverts, évidemment, supposé extraordinaire. Mais enfin, la partie la plus proche, on le voyait là, c'était splendide, splendide. Et ça faisait un peu rêver, tout de même. On disait, tiens, voilà, le festin des noces de l'agneau. Nous n'avons pas besoin de représentation, mais enfin, je cite ça, n'est-ce pas, parce que ça a été publié par la revue de Billy Graham. Mais enfin, ce sera quelque chose de magnifique, quelque chose de splendide. Là, comme je vous l'ai déjà dit, tous les disciples, tous les élus seront présentés par le Christ à son Père. C'est là que pour la première fois, les élus verront Dieu. Ils verront Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui croient qu'on ne verra pas Dieu. Ça, je l'ai déjà signalé. Hein. Je ne suis pas du tout de cet avis. Ça ne rend pas compte de la Bible. Parce que, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus a dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Bon, mais il n'a pas dit que personne ne le verra plus tard. Et puis, il a bien dit que celui qui avait vu Dieu, c'était celui qui était venu de Dieu, c'est-à-dire lui-même. Lui, il dit bien qu'il a vu Dieu. Et puis, il dit aussi, en parlant des petits-enfants, leurs anges voient constamment la face de Dieu qui est dans le ciel. Donc, la face de Dieu, ce n'était pas la sienne, puisqu'il était là sur la terre, lui, n'est-ce pas ? Les anges voient constamment la face de Dieu. Et puis enfin, voir face à face, n'est-ce pas ? Ça, c'est quelque chose qui est la grande promesse. C'est ça, n'est-ce pas, qui est la récompense ultime. Et c'est quand nous avons vu que Dieu étendra sa tente sur les élus, je vous ai dit, n'est-ce pas, ce qu'il les réjouira des délices de sa présence éternelle, voir Dieu. Nous le verrons tel qu'il est. C'est magnifique. Et là, n'est-ce pas, l'union éternelle des ressuscités absolument semblables au Christ. Le Christ, lui, aura exactement son image chez chacun des ressuscités. Et alors, cette union, n'est-ce pas, vous voyez, sera quelque chose de magnifique. L'union éternelle, une union en esprit, c'est les noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Pourquoi est-ce souligné ainsi? Ça veut dire, ne vous amusez pas à trafiquer ça et interpréter en spiritualisant comme font certains. Ça, c'est les véritables paroles de Dieu. Gardez-les telles qu'elles sont. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. On peut dire que lors des noces de l'agneau, le dernier Adam, vous savez que Christ est appelé le dernier Adam et la vraie Ève s'unissent pour l'éternité. La vraie Ève, c'est l'épouse, c'est la collectivité unie de l'Église. Le dernier Adam, Adam et la vraie Ève s'unissent pour l'éternité. La parole de Dieu nous enjoint de vivre pour lui dès maintenant sur cette terre, afin d'être prêts pour l'enlèvement et les noces au jour de la joie de son cœur. Ce sera le jour de la grande joie de Jésus. Et, je pense, de la joie de tous ceux qui seront appelés au festin des noces de l'agneau. Jean, c'est tellement magnifique, voyez-vous, que Jean se prosterne. Et il veut adorer l'ange. Qu'est-ce qu'il a à côté de lui? Il a cet ange qui lui fait voir tout cela, n'est-ce pas? Il se prosterne, il veut adorer l'ange. Il cède ainsi à une exaltation humaine. Je vous ai dit, il a gardé, n'est-ce pas? Évidemment, cette humanité, il le fallait. Il se jette aux pieds de l'ange dans un mouvement d'exaltation, mais l'ange l'arrête. Et lui dit non, c'est pas, il faut adorer Dieu lui seul. Nous allons lire maintenant, et ça va pas demander beaucoup de temps, les versets 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Nous voyons ici, bien sûr, le Seigneur descendre. Le Seigneur descendre sur la terre. Jean le voit sur un cheval blanc. Mais il voit aussi que tous ceux qui l'accompagnent sont aussi sur des chevaux blancs. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. C'est donc l'Église qui vient des noces de l'agneau, qui accompagne le Christ, assis comme lui sur des chevaux blancs. Il lui ressemble. Maintenant, la ressemblance au Christ est parfaite. Si bien que Paul nous montre dans les Thessaloniciens que quand sur la terre on verra cette arrivée, eh bien, on admirera le Christ, non pas seulement dans sa propre personne, mais dans la personne de tous ceux qui l'accompagnent, de toute cette armée, parce que partout, ce seront des Christs, seront exactement semblables à lui. Exactement. C'est quelque chose de magnifique. C'est pour ça qu'ils sont eux aussi sur des chevaux blancs. Alors ça, c'est le moment de la parousie, l'avènement du Seigneur. Il paraît avec plusieurs diadèmes sur sa tête, car il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il va régner. C'est le jour de l'Éternel. Voilà le jour de l'Éternel dont a parlé Zacharie 14. C'est là que tout œil le verra venir sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Chose inouïe, l'Antichrist et l'immense armée qu'il a rassemblée, n'oublions pas qu'il a fait une mobilisation générale de la terre, toute cette armée qu'il a rassemblée prétend faire la guerre à celui qui descend sur le cheval blanc, entouré de l'armée des saints. Ils mettent donc tous leurs moyens dans cette entreprise désespérée, tant ils sont vraiment tenus par la haine du Christ et par l'aveuglement. C'est là que se manifestera l'impuissance du monde des hommes et de ses armements face à la puissance de Dieu que rien n'ébranle. Il aura certainement, l'Antichrist aura des canons. Il aura des canons, il aura toutes sortes d'engins, il aura des missiles. Alors il va amener tout ça quand il va voir, n'est-ce pas, un point lumineux d'une intense luminosité. Je me reporte un peu à la vision d'Ézéchiel. Il voit un point extrêmement brillant dans le lointain, puis ce point approche. Je crois que c'est cela, ce qui est appelé le signe de Christ lorsqu'il viendra. Ben, Jésus a parlé du signe de Christ, du signe, son signe. Alors, ce point, n'est-ce pas, qui vient comme Ézéchiel l'a vu, et qui approche, il grossit, n'est-ce pas, ça devient un feu. Et l'Antichrist va voir cela. Évidemment, son maître, le diable, qui est là, ne s'y trompera pas. Il lui dira, le voilà, c'est lui. Alors, que fera-t-on à ce moment-là? Tous ces engins, ces canons, etc., qui sont là pour faire la guerre d'Armageddon, on va les tourner vers le ciel. On va les tourner vers celui qui descend. On va pointer, on va peut-être envoyer des missiles. Folie du monde. Ah, il faut que la folie du monde se manifeste de cette manière-là, il n'y a pas de doute. Il va faire la guerre, nous est dit qu'il va faire la guerre à celui qui descend sur un cheval blanc et aux armées qui l'accompagnent. La folie des hommes, n'est-ce pas? C'est là qu'elle va vraiment éclater, cette folie. Alors, le Seigneur va continuer de descendre tranquillement, et puis, pof, la bête va être saisie, l'Antichrist lui-même va être saisi, le faux prophète, et puis, hop, vivant, dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, cette ultime tentative de l'Antichrist et de ses armées révèle au grand jour la folie des humains, se croyant capables de combattre le Christ. Et cette folie met le point final à la révolte du Christ. C'est le dernier acte. C'est le dernier acte de la révolte de l'humanité. Son chef et ses armées périssent en ce moment. Le feu, l'étang de feu et de soufre n'est pas le séjour des morts, c'est ce feu qui ne s'éteint pas. Le séjour des morts, lui, il va être jeté lui-même, quand on n'en aura plus besoin, dans les temps ardents de feu et de soufre.